Merci pour ces temps de communion fraternelle. Merci, comme le frère l'a prié, de la prière qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est le moment où on s'approche de ce trône de la grâce. On a les pieds bien sur terre, mais on peut être dans ta présence en ce moment même. Et combien il est bon de s'approcher de toi. Ce matin, ma prière encore, c'est que tu puisses disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole, que tu puisses m'accorder la sagesse qui vient d'en haut pour dispenser ta parole avec droiture, et que ça puisse nourrir ton peuple. Chaque âme devant moi a un besoin sûrement différent, des combats différents, des qualités et des capacités différentes. Alors Seigneur, que ton esprit puisse parler à chacun et faire du bien à chacun, que ton peuple puisse grandir, Seigneur, tout simplement. Au nom de Christ. Amen. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout va vite, n'est-ce pas? On vit dans un monde où tout va vite, les informations vont vite, les réseaux sociaux vont vite, les marchés financiers vont vite, les conflits vont vite, les décisions politiques vont vite, les crises économiques vont vite. On vit une époque où il suffit d'allumer les infos ou de tendre un peu l'oreille, où les tensions géopolitiques, les cyberattaques, les catastrophes naturelles, on a encore vu cette semaine, les bouleversements climatiques, on a l'impression que tout semble s'accélérer. Nous vivons dans un monde où on peut dire qu'il est de plus en plus instable. Mais ce n'est pas une nouveauté non plus. Je pense qu'il y a une accélération, mais je ne peux pas dire que c'est une nouveauté, parce qu'on va voir que le psaume 46 nous montre qu'il y avait déjà des choses qui existaient, peut-être pas de la même ampleur, mais c'est des choses qui existaient déjà. Alors la question ce matin, comment rester stable lorsque tout autour de nous semble trembler en tant que chrétien? Comment rester stable lorsque tout autour de nous semble trembler en tant que chrétien? Pas forcément trembler que dans notre monde, mais aussi des fois trembler dans notre quotidien. Et je crois que le psaume 46 répond à cette question. Alors je vous invite à lire le psaume 46 ensemble. Prenons le psaume 46. Psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée, sur la lamotte, cantique. C'était chanté, apparemment en soprane, d'après certains théologiens. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Quand on lit ce psaume, on voit que le psalmiste n'est pas en train de décrire un monde paisible. Ce n'est pas un monde paisible qu'il décrit. Il parle de montagnes qui s'écroulent, de mers qui grondent, de nations qui s'agitent et de royaumes qui s'ébranlent. Pourtant, au milieu de tout cela, le psalmiste est capable de proclamer cette vérité qui est, je pense, une vérité éternelle. Il dit « Dieu est pour nous, Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. » Dieu ne promet jamais à son peuple, autant à Israël que nous aujourd'hui en tant que chrétiens de l'Église, Dieu ne promet jamais à son peuple un monde sans crise. Jamais. Il nous révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Un Dieu qui demeure souverain dans les crises et les difficultés. un Dieu qui est là dans les crises et les difficultés, un Dieu qui ordonne même, si on croit qu'il est souverain et qu'il est Dieu, ordonne même les crises et les difficultés. Quand j'observe ma vie, il n'y a pas beaucoup de moments dans ma vie où je suis véritablement immobile. Peut-être que vous allez vous y retrouver. Même lorsque mon corps est assis ou allongé, ça nous arrive, hein, je ne sais pas vous, mais mon esprit souvent continue de courir. Je pense à demain, je pense aux factures, il va falloir payer, je pense à l'avenir de mes enfants, au projet de la famille, je pense à l'église, je pense aux problèmes que je dois régler dans mon quotidien. Mais il y a un endroit, et je suis là, c'est mes pensées qui bougent, mais je peux encore me lever et bouger. Mais il y a un endroit où je me suis dit, Florent, il y a un endroit où des fois tu es vraiment immobile dans, physiquement. Tu ne peux plus bouger. Parce qu'il y en a un autre qui contrôle ce qui est en train de se passer. C'est quand tu es dans l'avion. Quand tu es en plein vol, tu ne peux pas dire, hop, 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 il faut atterrir là. Hein? Quand on est assis, attaché, je ne peux pratiquement rien faire parce que c'est un autre qui contrôle la situation. Et des fois, Dieu nous conduit dans cette position. Il nous conduit là où nous ne pouvons plus contrôler, courir ou maîtriser. Et dans un monde où tout va vite, où nos vies vont vite, où on ne prend pas le temps de s'arrêter, c'est alors que Dieu dit « Arrête-toi et sache que je suis Dieu ». Et c'est très difficile pour nous, chrétiens occidentaux, de savoir nous arrêter, d'arrêter tout notre être, et se focaliser uniquement sur Dieu. C'est compliqué, n'est-ce pas? De s'arrêter. Et la question, c'est que se passe-t-il lorsque je m'arrête suffisamment longtemps pour reconnaître que Dieu est Dieu? Est-ce que vous êtes posé cette question? Qu'est-ce qui va vraiment se passer si je m'arrête concrètement pour considérer que Dieu est Dieu? Mais nous vivons dans un monde qui nous pousse pour ne pas nous arrêter. Et le psaume 46 nous enseigne que notre sécurité ne repose pas sur la stabilité du monde ou sur les circonstances, mais sur la souveraineté et la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu domine sur la nature, Dieu domine les nations, Dieu domine sur l'histoire, c'est son histoire. Et les croyants doivent faire confiance à leur Dieu. Un auteur a dit ceci, « Nous faisons profession de croire ces choses, mais agissons-nous en conséquence. » Nous faisons profession de croire ces choses. Oui, Dieu est souverain. Oui, Dieu est grand. Oui, Dieu est puissant. Mais est-ce que notre vie reflète ce que nous disons? Alors, on va voir trois vérités ce matin. Quand la création tremble, Dieu demeure notre refuge. Je pense qu'il peut avoir le diapo. Quand les nations s'agitent, Dieu demeure au milieu de son peuple. Et la dernière, j'avais noté un peu différente du titre que j'avais réécrit sur le PowerPoint. Quand Dieu nous demande de nous arrêter, c'est pour que nous reconnaissions qu'il est Dieu. Et on va essayer de voir ça ensemble ce matin en reprenant verset après verset ce psaume. Quand la création tremble, Dieu demeure notre refuge. Quand les choses tremblent dans notre quotidien autour de nous, est-ce que Dieu est véritablement mon refuge? Le cantique commence par ceci. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Gardez ce verset peut-être dans votre cœur parce qu'il fait tellement de bien à notre âme. Je le répète, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Apprécions ce verset. Apprécions-le. Arrêtons-nous quelques instants encore, on va le relire. Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est mon protecteur. Et le psalmiste ne dit pas, écoute, vous n'aurez jamais de détresse. Il dit, dans la détresse, Dieu est là. Dans la détresse, Dieu est là. Notre confiance est ancrée dans le Dieu créateur. Et on peut aller plus loin pour nous qui sommes au bénéfice de la Nouvelle Alliance et par rapport à Colossiens notamment. Notre confiance est ancrée dans le Christ, parce que le Christ est Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par lui. La foi biblique ne consiste pas à croire que rien de mauvais nous arrivera. Elle nous enseigne à savoir nous réfugier lorsque arrivent les crises, les difficultés et même le mal. C'est la réalité de notre quotidien, de notre vie. Regardez Hébreux 6, 17 à 20. Hébreux 6, 17 à 20. Qui rappelle cette vérité à l'Église. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses, l'immuable dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions, regardez, c'est ça la beauté pour nous encore ce matin, nous trouvions un puissant encouragement. Des fois on cherche un puissant encouragement. La Bible nous donne ce puissant encouragement. Nous, dans le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Et comme Dieu ne ment pas et qu'on la possède, elle pénètre au-delà du voile. Il parle du salut là. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Christ est pour moi un refuge, un appui. Son œuvre à la croix, sa résurrection est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est capable de compatir à chacune de nos difficultés. Mais comme j'ai déjà entendu dans le ministère, oui, mais Jésus, il n'a jamais vécu ça. Jésus, il n'a jamais eu ça. C'est sûr qu'il y a des choses que dans son vivant, Jésus n'a peut-être pas expérimenté, mais à la croix. Il a porté toutes les souffrances, tous les péchés, tout ça, il a porté à la croix. Donc, il comprend ça. C'est pour ça qu'il peut compatir et comprendre notre souffrance. Quand la création tremble, Dieu demeure notre refuge. Et là, le psalmiste parle et utilise des images assez impressionnantes pour parler un peu de la création qui tremble. Hein. Il dit « Quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Là, le psalmiste parle du Dieu créateur, parle de la création. D'où l'importance dans cette grande histoire de Dieu de comprendre le créateur aussi. Souvent, la montagne représente ce qui est solide et grand. Hein, quand vous arrivez dans les Pyrénées, vous voyez ça, cette chaîne des Pyrénées, là, vous dites, waouh, c'est impressionnant, c'est imposant, c'est solide. Jamais ça peut bouger, ça. Moi, je peux bouger. Mais ça ne peut pas bouger. Et puis la mer, elle représente plutôt l'agitation, ce qui échappe à notre contrôle. Et là, j'ai l'impression que la montagne, elle bouge. Elle paraît solide, mais la mer a même cette capacité à faire bouger les montagnes. Parfois, ce que nous pensons être le plus stable dans nos vies devient instable. N'est-ce pas? Ce que nous avions tellement mis de confiance là-dedans, ça c'est stable, ça ne bougera pas. Le seul qui reste stable, c'est notre Dieu. Notre monde peut trembler, notre économie peut trembler, et ça tremble en ce moment. Les nations peuvent trembler, et ça tremble énormément en ce moment. Notre situation personnelle peut trembler, et il est possible qu'elle tremble ce matin. Mais notre Dieu, lui, ne tremble pas. Alors sur quoi est-ce que je construis ma sécurité? Je sais que la liste peut être longue et variée en fonction de chacun des individus présents ce matin et de ma propre vie. Sur mon compte bancaire, sur mon emploi, sur ma santé, sur la politique et économie de mon pays, sur mes compétences et mes propres capacités. Et toutes ces choses peuvent avoir leur utilité. Hein. Je ne veux pas non plus cracher sur ces choses-là et dire « non, c'est mauvais ». Non, ces choses-là peuvent avoir leur utilité, mais aucune ne peut être notre refuge, mes frères et sœurs, comme la montagne. Une mer peut arriver et poum, tout bouger. Le psalmiste nous rappelle cette vérité. Notre véritable sécurité n'est pas Dieu plus quelque chose d'autre. Hein, souvent, ça peut être ça, parce que nous n'allons jamais nier que nous croyons que Dieu est souverain. Mais des fois, c'est Dieu est souverain plus quelque chose, comme si Dieu avait besoin de quelque chose d'autre, ou quelque chose de palpable qui nous sécurise en nous appuyant sur cette chose qui est visible pour nous. Et c'est très humain. Mais ce n'est pas ça. Notre véritable sécurité, notre véritable refuge, c'est uniquement Dieu. Notre Dieu. Et c'est vers ça qu'on doit progresser, grandir dans notre quotidien. Quand les nations s'agitent, Dieu demeure au milieu de son peuple. Versets 5 à 8. Hop, je reprends le psaume 46. Contraste entre ce verset 4 et 5, on va toucher un petit mot là-dessus. On vient de voir les mers qui bougent, ça soulève, ça tremble, hein, l'océan. Quand vous allez au bord de l'océan, ça bouge. Hein. Et puis, là, d'un seul coup, il parle, il est un fleuve ou d'une rivière même, on pourrait traduire en hébreu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès le début du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre la voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le psalmiste là passe des bouleversements de la nature au bouleversement des nations. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. Voilà notre monde. Ce psaume, je fais juste une petite parenthèse, je ne vais pas être très long parce que ça prendrait trop de temps, mais ce psaume est une réalité du temps présent du psalmiste, je pense qu'il vit vraiment ça. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi quelque chose d'actualité pour nous aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant que croyant aujourd'hui, qu'il y a des applications pour nous aujourd'hui, mais il est fort possible aussi qu'il y ait quelque chose pour le futur, concernant aussi la nation d'Israël plus tard. Mais je ferme juste la parenthèse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment aujourd'hui, ce matin, c'est de comprendre ce que le psalmiste vivait, mais ce que nous aussi, aujourd'hui, on vit à travers ce psaume-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les nations s'agitent? Est-ce que vous êtes tous d'accord que ce matin, nous voyons les nations qui s'agitent? Hein? Des gouvernements qui changent? Les puissances qui se confrontent? Les guerres qui éclatent? Les économies deviennent des instruments de pression, n'est-ce pas? Les peuples sont déplacés, les populations souffrent. Beaucoup de changements très rapides en ce moment dans notre monde. Et j'aurais pu vous afficher plein d'articles pour appuyer ce que je suis en train de dire. Mais je pense que vous êtes tous convaincus et conscients que c'est une réalité de notre monde aujourd'hui. Un jour, un couple est venu me voir et m'a dit « Florent, à quoi ça sert de faire des enfants ?» Surtout que j'en ai 7. Hein. Il me dit, Florent, mais à quoi ça sert? T'es fou d'avoir fait 7 enfants? Je dis, oui, je suis peut-être fou d'avoir fait 7, c'est vrai, mais on est 2. Hein. Mais c'est une joie, malgré que ce n'est pas facile, c'est difficile. Il ne faut pas forcément en avoir 7, hein, attention. Mais il me sort cette phrase-là, il me dit, mais je dis, pourquoi? Mais ils me disent, regarde-vous notre monde, où allons-nous? Où allons-nous? Pourquoi faire des enfants dans ce monde où je viens de décrire tout un peu là, ce qui se passe? Je n'ai pas répondu ce jour-là. Mais le psalmiste, lui, il répond. Le psalmiste, il dit, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Il parle de la cité de Dieu, il parle du peuple. Et le psalmiste compare la protection de Dieu à une simple rivière qui fait beaucoup moins de bruit que la vague et que la mer. Cette rivière apporte la tranquillité, ce fleuve apporte de la tranquillité. Et c'est ça à quoi il compare Dieu maintenant. Il vient de passer juste avant à parler de ces montagnes qui se font même bouger par l'océan, par la mer, avec ces vagues. Et là, il vient volontairement, c'est de la poésie, volontairement pour montrer, regarde, Dieu, lui, il est un fleuve tranquille, calme. Il veut faire du bien à son peuple. Il est possible qu'il parle de Jérusalem, là aussi, même s'il n'y a pas forcément de fleuve qui est connu pour passer forcément à Jérusalem, même si on sait qu'il y a une rivière qui passe sous les fondations de Jérusalem. Mais ici, il veut encourager la stabilité du peuple de Dieu, notamment Israël à ce moment-là, que ce n'est pas par leur puissance politique ou militaire. Leur tranquillité, leur calme, veut se trouver uniquement dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il parle d'un, d'un lieu particulier. Vous voyez, il parle de quoi ? Il parle du temple, il parle du sanctuaire. Le temple et le sanctuaire étaient une image, étaient un lieu voulu par Dieu pour montrer sa présence. On sait qu'à un moment donné, il est parti de là, mais le temple était là pour montrer que Dieu est présent au milieu de son peuple. On le voit avec le tabernacle, on le voit avec le temple, c'est ce que Dieu voulait. Le temple, c'est la présence de Dieu parmi son peuple. Et la Bible ne dit pas que le monde ne sera jamais ébranlé, elle dit que Dieu reste présent au milieu de ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est notre Dieu. Et c'est pourquoi il y a ce refrain qui dit « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Ce Dieu-là, c'est toujours le même. Le Dieu qui se prononce l'Éternel des armées, c'est mon Dieu. Dieu est souverain sur toutes les puissances. Il n'existe aucune armée, aucune nation, aucune puissance qui puisse se placer au-dessus de lui. Aucune. Et vous allez tous dire « Amen, on est 100%, 200, 300, 400% convaincus de cela. » Mais quand les informations commencent à voir que les nations commencent à agiter un peu notre propre nation à quelques kilomètres d'ici, notre cœur peut commencer à réfléchir autrement et à oublier que Dieu est au contrôle de tout. Le Dieu de Jacob, qu'est-ce que ça veut dire dans ce texte ? Le Dieu souverain également, le Dieu qui fait alliance, le Dieu qui accompagne son peuple. Et c'est notre Dieu. Et notre Dieu est assez puissant pour gouverner l'univers. Notre Dieu est assez proche pour être avec nous. Et j'irai encore plus loin. L'incarnation de Dieu en la personne du Christ est la preuve que Dieu vit parmi nous. Et j'irai encore plus loin, que Dieu vit en nous. Lorsque nous regardons les événements du monde, nous pouvons être informés sans être dominés par la peur. Et la plupart vont dire « Mais non, ça ne me fait pas peur ça ». Mais des fois, il y a quelque chose qui va nous amener du stress, qu'on ne verbalisera pas forcément par tout ce climat ambiant. Jusqu'à arriver à des phrases comme j'ai entendu, qui je pense sont pas forcément c'est des faux raisonnements. Hein ? Le monde va mal, alors il ne faut pas avoir d'enfants. C'est un raccourci. Nous devons apprendre à ne pas laisser l'information affecter notre foi. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Nous sommes remplis d'informations que nous ne trions pas à la lumière de l'Écriture. Et nous devons apprendre à faire ça en tant que chrétiens. C'est important. Surtout en ce moment. Oui, nous sommes informés par la gravité des crises qui frappent à notre porte sans croire que Dieu a perdu le contrôle. Mais la réalité, c'est est-ce que tout ça ne m'affecte pas quand même ? Il est l'Éternel. Je ne sais pas si ça vous arrive, on va aller peut-être à l'échelle un peu moins haute que le monde et les nations. On peut recevoir des informations inquiétantes dans une journée. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des informations inquiétantes dans une journée où tout vous semble stable dans votre vie et d'un seul coup, boum ! Qu'est-ce que ça vient là ? Je n'avais pas vu ça arriver. Ça m'est déjà arrivé, hein, plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fait ? Tout de suite, on cherche une solution. Comment ? Hein ? Mais il faut savoir qu'aucune information ne change cette réalité. L'Éternel des armées est avec nous. Regardez Romains 8. Tout à l'heure, j'ai lu Romains 8 en introduction du repas du Seigneur. Reprenons Romains 8, qui nous enseigne aussi cette vérité, qui rappelle une vérité du psalmiste, hein, tout simplement. Il y a toujours de la continuité, hein, entre l'Ancien et l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Bien sûr qu'il y a des discontinuités ou des choses qui sont très différentes, mais il y a aussi une continuité dans la pensée de Dieu, parce que c'est le même Dieu. Hein. Regardez ce qu'il dit en Romains 8. Vous connaissez très bien ces versets, 31 à 33. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Et là, il revient sur l'œuvre de la croix, en fin de compte. Il revient sur le sens même de notre vie. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On pourrait continuer, mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Dieu est là et donc on doit apprendre à vivre avec cette vérité au quotidien. On doit apprendre à la mûrir, cette vérité. On doit apprendre à la méditer, à la digérer. autant quand tout va bien, où on peut vite oublier cette vérité, autant quand une information va tout bousculer dans notre quotidien. Seigneur, tu es là pour nous. Et tout cela dépend de ton œuvre à la croix, en fin de compte. Vous avez vu comme on revient tout par rapport à la croix avec Paul dans ce passage-là. Alors oui, dans votre vie de famille, vous allez avoir la sensation des fois d'avoir des semaines, des mois stables. Et d'un seul coup, il arrive une information qui déstabilise tout. Vous allez avoir votre vie professionnelle où tout semble stable, ça y est, vous avez pris vos repères, tout semble bien, oh, c'est mon super job. Et d'un seul coup, quelque chose que vous n'allez pas voir arriver qui va tout déstabiliser. Une vie ecclésiale. Le quotidien dans notre monde. C'est pourquoi le psalmiste continue avec peut-être le sommet du psaume, hein, je ne sais pas si on peut dire ça, mais arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Et on va regarder cette dernière partie, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Verset 9. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Je vais surtout m'attarder sur les versets 11 et 12 volontairement. Les versets 9 et 10 sont très intéressants et il est fort possible que ça soit quelque chose d'eschatologique, ça veut dire quelque chose qui est pour la fin des temps, qui n'a pas encore forcément été pleinement accompli. Il y a peut-être eu des manifestations de certains accomplissements de ces versets 9 et 10, mais il est fort possible, pour ceux qui ont une position qui croient qu'il y a un millénium, voilà, je pense que c'est sûrement lié à ce moment-là. Voilà, mais on peut le croire différemment, je ne me battrai pas avec vous sur ce sujet-là. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est vraiment d'attirer notre attention sur ce verset 11, quand Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans le contexte du psaume, cette parole porte l'idée un peu de cesser, d'arrêter, d'abandonner ses efforts. Hein, c'est un peu ça l'idée. C'est comme si Dieu était en train de dire à ce monde agité « Ok, hey, ça suffit là, arrête-toi, ça suffit, arrête-toi. Hein, vous courez, vous combattez, vous agitez. » Vous essayez de contrôler, vous pensez pouvoir tout maîtriser. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Et ensuite, il dit, sachez que je suis Dieu. Et certains théologiens ont fait la remarque de l'ordre, arrêtez, connaissance, et Dieu sera exalté. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, nous avons besoin de nous arrêter, non parce que nos problèmes ont disparu, mais parce que nous avons besoin de voir qui est Dieu au milieu de nos problèmes. N'est-ce pas? Et Dieu dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre, je domine sur tout en fin de compte. On parle souvent de la suprématie de Dieu, hein, c'est ça l'idée. Et le psaume 46 ne dit pas, écoute Florent, tout ira toujours bien. Mais Florent, Dieu est Dieu. Hein. Il ne dit pas, efforce-toi de tout contrôler. Florent, Dieu y règne. Il ne dit pas « le monde sera toujours stable », mais Dieu demeure stable lorsque le monde tremble. Alors Florent, arrête-toi et sache que je suis Dieu. Est-ce que vous croyez que cette parole est importante pour notre génération, de s'arrêter et de savoir que Dieu est Dieu? Pourquoi? Nous vivons dans une génération par rapport au fait de s'arrêter. Comment elle vit notre génération? Et je le vois de plus en plus moi-même avec des enfants d'un âge différent. On est une société de l'accélération, mes amis. On est une société de l'accélération. Nous avons accès à l'information immédiatement, trop rapidement. Nous pouvons communiquer immédiatement, nous pouvons commander immédiatement, nous pouvons être distraits immédiatement. Tout est de l'instant T. On n'a même plus le temps de s'arrêter pour réfléchir. Et si des fois on ne répond pas de suite, les gens ne sont pas contents. On est matrixé de plus en plus par l'instant T. On ne prend plus le temps de s'arrêter. Les générations passées, je pense qu'il y a des gens bien plus âgés que moi ici qui ont connu ces temps où on peut s'arrêter. Mais notre âme, mes amis, ne sait pas forcément vivre dans cette vitesse. Mon âme ne sait pas vivre avec cette vitesse, en fin de compte, il faut juste le dire. Et on peut être constamment connecté et pourtant profondément déconnecté avec Dieu. On peut être connecté à plein de choses, être le top de l'immédiat, de tout ce qui est immédiat dans notre quotidien, mais plus sensible à ce que Dieu dit. Comme le dit un certain livre, hein, on est trop occupé. Alors j'aimerais que vous entendiez une fois de plus cette vérité biblique. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Aujourd'hui, et je pense de tout temps, le fait de s'arrêter dans la présence de Dieu est une discipline spirituelle, un combat, une lutte du quotidien entre la chair et l'esprit. Faire l'effort de s'arrêter et de prendre du temps pour connaître qui est Dieu, c'est une lutte. C'est une lutte. Arrête-toi pour regarder à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parfois éteindre le bruit. Et ça, c'est chacun de vous qui savez c'est quoi le bruit. Si on est honnête, on peut l'identifier rapidement, le bruit. Hein? Peut-être mettre de côté le téléphone, hein? Couper les informations du boulot, fermer les réseaux sociaux, apprendre à s'asseoir dans le silence, ouvrir la parole de Dieu, prier et simplement demeurer devant Dieu. Il est important d'identifier le bruit dans nos vies. Pourquoi ? Parce que si nous ne nous arrêtons jamais, nous allons finir par vivre davantage sous l'influence du monde que sous l'influence de Dieu. C'est une réalité, c'est de la logique même. Nous aurons un titre de chrétien, mais une vie comme le monde en fin de compte. Alors ce matin, j'aimerais qu'on s'encourage les uns les autres. Je m'inclus avec vous, hein, dans ce processus. Ce n'est pas évident de s'arrêter. Et qu'on apprenne à nous arrêter dans la présence de Dieu. Personnel et ensemble. Les plannings d'église, ce n'est pas fait pour mettre des plannings d'église ou des activités, dire « Ah, notre église, elle a un planning ». C'est pour apprendre à s'arrêter ensemble. Parce que la Bible enseigne ça. La première église locale a appris à s'arrêter ensemble dans des difficultés, dans des situations très compliquées. Relisez les Actes au chapitre 2 jusqu'au chapitre 10. Vous allez voir que c'était dur, l'église locale. Mais ils ont appris à s'arrêter, à persévérer ensemble, à être assidus. Donc ce n'est pas juste un planning pour être un planning. Dans votre vie personnelle, ce n'est pas juste dire oh, « il faut que je casse la cage de passer mon culte personnel avec Dieu, sinon ça ne va pas aller. » Non, c'est parce que c'est bon de s'arrêter de connaître Dieu. On veut souvent contrôler notre avenir, les circonstances, notre réputation, nos finances, notre sécurité, les événements, et la liste peut continuer. Mais le psaume 46 nous rappelle « Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas ». Et s'arrêter, j'ai noté, c'est accepter humblement. Seigneur, je ne contrôle pas tout, mais toi, tu contrôles tout. Et oui, le temps que je vais m'arrêter pour toi, ce n'est pas du temps perdu. Parce qu'on pourrait dire, ah, le temps que je consacre à Dieu quand même, ah, je ne vais pas pouvoir le faire pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Vous vous rendez compte comment on réfléchit? On est en train de comparer le temps avec Dieu avec le temps de ce monde qui est éphémère et qui part. On est bizarre, hein? On dit, Christ, je te dois tout, tu es mort à la croix à cause de mes péchés, je vais passer l'éternité avec toi. Et nous, on est en train de dire à Dieu, écoute, je vais te passer un peu de temps avec toi parce que, ou te servir un peu même dans... Parce que quand même, regarde tout ce que j'ai à faire. Comme si Dieu ne savait pas ce qu'on avait à faire. Cette confession de foi sincère, « Seigneur, je ne contrôle pas tout, mais toi, tu contrôles tout », peut devenir une véritable libération, un début d'une profonde transformation. Oui, Seigneur, je veux m'engager à m'arrêter et à savoir que tu es Dieu. Et ça s'apprend à s'arrêter. Et quand on s'arrête pour prendre du temps avec Dieu, alors on va remplacer la peur par la confiance. Nous ne craignons rien quand la terre est bouleversée. Pourquoi ? Parce que la confiance ne repose pas sur les circonstances, elle repose sur la présence de Dieu. La vraie question, ce n'est pas de savoir est-ce que le monde va trembler, est-ce que ma journée va trembler. Parce qu'elle tremble peut-être déjà et elle va trembler. Notre monde va trembler, il tremble déjà, mon quotidien tremble peut-être déjà, ou il va trembler, c'est une réalité de la vie. Il ne faut pas vivre sans cette réalité. La question c'est, Où suis-je lorsque le monde tremble ou tremblera? Où suis-je lorsque ma journée, ma maison tremble ou tremblera? Elle est là la véritable question. Si mon refuge est dans le monde, alors je vais trembler avec le monde. Mais si mon refuge est en Dieu, je peux traverser le tremblement sans perdre mon espérance et ma joie en Dieu en fin de compte. Et on a besoin de se le répéter les uns les autres. On a besoin de s'encourager les uns les autres là-dedans. Parce qu'il y a des jours, ma journée tremblera moins que celle de l'autre. Mais dire, écoute, frère, sœur, Dieu est là. Apprenons à nous arrêter pour comprendre à quoi sert notre vie. À quoi sert ma vie dans ce monde? Et le psaume 46 nous donne une réponse. Notre vie ne consiste pas à courir après la réussite, accumuler des choses, résoudre tous nos problèmes et finalement disparaître. Notre vie doit être orientée vers une réalité plus grande. Dieu dit, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Le but ultime de l'histoire n'est pas la gloire de l'homme, mais la gloire de Dieu en fin de compte. Voilà pourquoi on doit s'arrêter. Parce que si on ne s'arrête jamais, on risque de passer toute notre vie à courir sans jamais nous demander « Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi est-ce que je vis ? Et qu'est-ce qui aura une vraie valeur dans l'éternité ?» Arrêtons-nous, prenons du temps à connaître Dieu. Ça a de la portée éternelle. Et je crois que ça a aussi de l'impact dans notre quotidien, un vrai impact dans notre quotidien. Alors pour conclure, la terre tremble, les montagnes chancellent, les eaux mugissent, les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Mais au milieu de tout cela, Dieu dit, arrête-toi et sache que je suis Dieu. Tu regardes le monde et tu es inquiet? Arrête-toi, regarde-moi et prends du temps avec moi. Tu regardes ton avenir et suis de ta famille et tu ne sais pas ce qui va arriver? Arrête-toi, prends du temps avec moi, regarde-moi. Tu essayes de tout contrôler? Arrête-toi et sache que je suis Dieu. Et lorsque je ne sais plus quoi faire, Dieu, dans son amour et sa grâce, me dit, Flo, je suis là. Je suis là. Alors je vous encourage à cette difficulté, je prononce le mot difficulté, à apprendre à s'arrêter dans un monde qui nous a déjà programmés à ne pas nous arrêter et à faire tout tellement vite. Vous savez, Paul enseigne souvent dans les épîtres l'importance de la connaissance de Dieu. Je pense qu'il n'y a quasiment aucune épître où il met en avant cette notion de « sachez qui est Dieu » avec des termes différents. Parce que Paul avait appris à s'arrêter pour connaître Dieu. Alors certains diront « mais c'était plus facile pour lui, il était en prison ». Oui, ben, je pense que personne ne veut être en prison pour apprendre à connaître Dieu. Hein. Mais quand il était libre, Paul savait mettre du temps à part. Et celui qui est l'exemple même du fait de savoir s'arrêter et de prendre du temps avec le Père, alors qu'il est Dieu lui-même, ça m'a toujours dépassé, mais parce qu'il a voulu nous laisser un exemple, c'est Jésus-Christ. Observez les évangiles. Jésus-Christ prenait du temps pour s'arrêter et être en communion avec le Père, alors que ses journées étaient très agitées. Même les disciples disaient « Oh, on s'arrête !» Christ est un exemple. Alors ce matin, peut-être que la première chose que nous demande n'est pas de faire davantage, mais peut-être il nous demande « Arrête-toi, arrête de courir, arrête de vouloir tout contrôler, arrête de nourrir ta peur, arrête le bruit, arrête-toi devant moi et sache que je suis Dieu. » Parce qu'on le sait tous, hein, le dernier mot sur la nature, sur les nations, sur l'histoire et sur ma propre vie, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu, mes frères et sœurs. Et j'aimerais qu'on puisse dire avec le psalmiste ce refrain, parce que c'est un cantique, c'est le refrain de ce cantique. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. On va prier et puis je vais inviter les enfants. Est-ce que quelqu'un peut chercher les enfants? C'est les enfants qui vont conclure ce temps de culte en reconnaissance à notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, notamment par rapport au cabanon. Ce matin, je viens encore devant toi et je te demande pardon. Pardon parce que je ne m'arrête pas suffisamment. Pardon parce que je me justifie dans « j'ai beaucoup de choses à faire et je dois faire ça, 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 ça et ça ». Alors que toi, tu me dis « Florent, arrête-toi et apprends à me connaître davantage ». Et Seigneur, pardonne-moi parce que des fois, je pense que c'est une perte de l'optimisation du temps, mais c'est tellement faux. Pardonne-moi de ce faux raisonnement, je veux faire des progrès. Je veux qu'en tant que frères et sœurs de cette assemblée, nous fassions des progrès, qu'on apprenne à s'arrêter individuellement dans ta présence et collectivement, Seigneur, pour grandir et combattre le bon combat de la foi. Nous voulons mettre en pratique ta parole, et ta parole nous enseigne cela. Seigneur, que ça ne soit pas juste tombé dans nos oreilles et que ça parte. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, combien c'est facile. Vraiment que ta parole puisse marquer nos cœurs, que ton Saint-Esprit puisse nous aider, nous encourager à tous, Seigneur, à faire des progrès. Parce que nous croyons puissamment que tu es celui qui est au-dessus de tout, qui contrôle tout, qui aime que ses enfants prennent du temps avec toi. Merci parce que tu portes ce titre merveilleux de Père, notre Père céleste. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.